With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Et bonjour à tous, c'est Capture Mag hebdomadaire, celui du 3 mars 2017, et c'est l'anniversaire de ma maman. Je l'embrasse, bon anniversaire maman.
Vous attendiez pas ça, Madame Ogia.
Exactement.
Est-ce qu'on peut l'embrasser, nous aussi?
Alors, elle s'appelle plus Ogia, elle s'est remariée.
On saura tout.
On en apprend des choses.
Je ne vous dirai pas. Et donc, nous sommes le 3 mars et nous allons parler de Logan, de Kong Skull Island.
Tu continues à recevoir les mêmes cadeaux. Là, des trois bonhommes qui étaient venus voir à ta naissance.
C'est ça, les mêmes.
Mais
tout à fait, Rafik. Et nous parlons de Don Verdan. Tu m'as troublé là.
Verdine.
Vous allez bien? Vous êtes en forme, Rafik? Tu es à fond?
Ouais, je suis à fond.
T'es finalement revenu après l'épisode Night Shyamalan.
Vous m'avez viré comme un malpropre. Ouais, je pensais que
c'était pour ton bien, Rafik.
On a dit beaucoup de mal de toi.
J'ai beaucoup pleuré sous la pluie. ça faisait très film français.
Stéphane, t'es en forme?
Tout va bien.
Bon, et Julien, est-ce que tu es en forme?
Ça va.
Tu es à fond. Très bien. C'est formidable. Et on salue Arnaud de loin qui est resté dans son sud. Pas natal.
En tong, donc.
Voilà, ouais. Il est au chaud, lui. Il a du soleil.
C'est à peu près 14 degrés au réveil, donc tout va bien.
Ouais, ça va pour lui. Bon, alors, on va démarrer sur les chapeaux de roue, hein, par une nouveauté, un film qui sort au cinéma le 1er mars,
qui vient de sortir,
ouais. Exactement. Et c'est Logan. Et c'est Rafik qui va nous introduire ce sujet.
Oui, c'est assez inattendu. Rafik, qui, comme vous le savez, ne sait plus trop à quoi ressemble un film de super-héros, vu qu'il boycotte un peu le genre depuis quelques années. Et quand même, allez voir Logan. Étonnant, Logan, 10e installment de la franchise X-Men au cinéma. 3e et dernier volet de la saga Wolverine.
Avant qu'ils en retrouvent un autre pour le faire.
Avant qu'ils ne le spoilent, est-ce qu'on va spoiler l'épisode ou pas, je ne sais pas.
Peut-être pas jusqu'au bout, mais en tout cas, c'est le dernier épisode de Hugh Jackman.
Voilà.
Il l'a annoncé.
Et donc réalisé, à nouveau réalisé par James Mangold, qui est quelqu'un qu'on apprécie tout particulièrement ici, autour de cette table et à Capture Mag, pour être un des derniers représentants de ce qu'on pourrait appeler un peu vite fait du classicisme hollywoodien, c'est-à-dire quelqu'un qui a une formation de raconteur d'histoire proche de ses personnages, qui a été formé, on l'a déjà dit dans cette émission, il a été formé par Alexander McKendrick, hein, au même titre que Lasseter, Tim Burton,
qu'il remercie à chaque film.
Voilà, qui remercie à chaque film. Et c'est un de ceux donc qui a le plus profité des leçons de McKendrick en termes de narration cinématographique. Donc pourquoi consacrer un truc à Logan? Parce que précisément on a affaire à un film et non pas à une énième franchise. Donc vous oubliez les Claudettes de Joss Whedon, vous oubliez un peu tout ce à quoi les shows de Mariti et Gilbert Carpentier vous ont habitué ces dernières années en termes de vide intersidéral et de vulgarité visuelle à tout craint. Là, il y a un projet de mise en scène, un film qui fonctionne sur des codes qui sont pas forcément les codes du film de super-héros. Alors déjà, on peut peut-être revenir un petit peu sur le pitch, même si tout le monde sait un peu de quoi il s'agit. Tout le monde a vu la bande-annonce. Ça se passe dans le futur. Déjà, ça se passe pas aujourd'hui, ça se passe dans le futur.
Un futur lointain,
pas si lointain que ça, mais en tout cas, voilà, depuis deux décennies, au plus aucun mutant n'est apparu à la surface du globe. D'accord. Ils ont été génétiquement éradiqués, en fait. Et Logan, en fait...
Spoil, là.
Bah non, on le sait rapidement au début du film. Je crois qu'il y a la date 2029 qui est annoncée assez vite.
Oui, mais bon.
Oui, mais tu sais pas pourquoi ils ont disparu en fait.
Voilà, ça se passe après Blade Runner et avant Blade Runner 2, si je comprends bien.
Oui. Exactement, tout à fait. Oui,
il fallait vraiment que tu ramènes Villeneuve.
Mais, voilà. Non, mais au départ, il voulait le mettre dans la timeline du cinquième élément et puis je l'ai dissuadé.
D'accord.
Donc Logan est un chauffeur de limousine, enfin une espèce de taximan dont on comprend assez vite, voilà, qui travaille un peu à la frontière mexicaine. Et.
Près du mur.
Voilà, près du mur, qu'on voit dans le film,
ah,
le fameux mur de Trump. et qui secrètement garde le professeur Xavier dans un endroit dans une espèce d'usine désaffectée pour le protéger de lui-même, parce que Xavier est atteint d'une maladie dégénérative, ce qui pour un humain est déjà dramatique, mais chez un mutant prend des proportions un peu inouïes, parce que évidemment c'est
du cerveau. Ouais.
Voilà. Donc il est dans une espèce de grand truc étanche d'une vieille usine pour éviter que ses ondes cérébrales n'explosent la moitié de la planète, quoi, en gros, ainsi que Caliban qui a survécu avec eux, et il va être approché par une femme accompagnée d'une fille qui a absolument besoin de lui, mais évidemment lui ne veut plus avoir rien à faire, rien entendre parler de quoi que ce soit. Allez vous faire foutre, madame, je vous connais pas. Et très vite, quand vous avez la bande-annonce, on va comprendre que cette petite gamine est une de ces fameuses mutantes. D'où vient-elle? Que fait-elle? Pourquoi est-ce qu'elle a des griffes qui sortent, elle aussi, de ses mains? Vous le saurez en allant voir Logan. Donc voilà.
D'accord.
Comme je le disais, c'est pas un film qui se repose sur l'imagerie à laquelle les autres films de super-héros de ces dernières années nous ont habitués. On est très très clairement dans un western moderne, hein,
c'est
un road movie.
Ouais, puis la comparaison est peut-être un peu poussée parce que c'est peut-être pas à ce point mais moi j'ai presque envie de dire si on quitte Honkman.
Oui, il y a
version super-héros, parce qu'il y a un peu de ça quand même dans le film. Mais...
En fait, les références narratives, là je parlais plus au niveau stylistique, le choix du décor, voilà, les déserts, les grandes étendues entre guillemets naturelles, etc., renvoient à une imagerie de western. Ça se termine, sans spoiler, mais ça se termine près d'un canyon, etc. Et le film...
Il y a des Stetson.
Voilà, et puis il y a un renvoi perpétuel, récurrent et important, à L'Homme des Vallées Perdues de George Stevens, qui est au cœur du récit et qui est cité directement à travers des extraits. Donc voilà, on rappelle que Mangold avait fait un remake mal aimé, mais pour lequel j'ai une certaine affection, de 3h10 pour Yuma, qui était vraiment un beau western. Quoi,
avec
comme
une
on en
super
fait
musique de Marco Beltrami.
Et puis une belle photo, enfin vraiment les westerns comme on voudrait en voir plus souvent. Quoi.
Très premier degré, très direct, pas du tout méta.
Donc on est un peu dans cette continuité. Et sur le plan narratif, ça emprunte en fait à une vieille tradition hollywoodienne qu'on peut faire remonter quasiment jusqu'au film de Wallace Beery type Le Champion dans les années 30 en passant dans les années 70 par un film qui avait été un énorme succès aux États-Unis mais qu'on connaît peu en France qui s'appelle La Barbe à Papa dans lequel Ryan O'Neill traversait les États-Unis avec une gamine pendant la dépression. Qui est en fait ce film dans lequel un individu qui se sait un peu foutu, qui a par trop péché, on va dire, finit par trouver la rédemption à travers les yeux d'un enfant qui va l'obliger à renaître à lui-même, quoi. Si tu veux, on quitte Honkman. Mais j'essayais d'élargir pour montrer qu'il s'agit d'un genre cinématographique, narrativement.
Il y a cette espèce de mal à l'âme, en fait, qui est là aussi. C'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus. Tu vois. Et le truc, c'est que. On sait que bon voilà Clint Eastwood c'est un des grands réalisateurs classiques, c'est pour ça aussi que je faisais la connexion. L'autre truc qui est très intéressant, c'est que c'est un film qui est aussi jusqu'au boutiste dans sa, pas seulement dans sa façon d'aborder le genre super-héros, mais dans sa façon de détourner, en fait, c'est-à-dire ça a été marketé, dit c'est un R-rated, c'est pas le Logan que vous avez l'habitude de voir, ce n'est pas celui que vous voyez de chez Bryan Singer, chez Brett Ratner, enfin, bref, etc., etc. Et pour, pas seulement parce que justement il y a des décapitations et des mecs qui se font éclater la gueule avec des griffes, mais aussi.
Il y en a, il faut quand même le préciser, c'est rafraîchissant de voir des griffes qui font vraiment effet à l'écran, quoi.
Mais aussi parce qu'il y a une espèce de détournement, je trouve, et là, c'est cette radicalité dont je parle, en fait, un détournement de Le code Hays n'existe plus depuis longtemps, mais la MPAA, la façon dont la MPAA fonctionne dans la censure larvée des films, fait que les gens sont obligés de se poser des questionnements moraux sur leurs personnages principaux. Un personnage comme Wolverine a toujours une espèce de notion rédemptrice, c'est-à-dire par scène, il va être badass d'un côté, envoyer chier quelqu'un, mais il va forcément l'aider après de l'autre côté, etc. etc. Et la rédemption est immédiate. Là, t'as pas ce genre de choses. Quand un perso meurt, il meurt vraiment. Quand, Le truc, c'est que ce que je veux dire par là, c'est que tous ces moments.
Et sa façon de lâcher la gamine régulièrement est cruelle. Enfin, je veux dire, c'est pas un spoiler, hein, je précise, mais en milieu de film, à un moment donné où il se dit en gros fuck off, quoi, il la laisse dans une situation où elle ne peut que crever, quoi. Nous, en tant que spectateurs, justement parce qu'on est habitué à ce schéma. Dont je parlais, qui doit bien avoir un nom, hein, mais je sais pas s'il a été nommé ce genre, on va appeler ça le film de la rédemption par l'enfant. On connaît les codes de ce genre et on s'attend à ce que le personnage de dur qui en a rien à foutre, qui envoie chier le gosse, soit affecté malgré tout, quoi. Et en fait, très tardivement dans le film, il continue à ne pas vouloir être affecté par ça et ça reste surprenant comment il la jette, quoi.
C'est un personnage qui n'hésite pas à frapper le premier sur des ennemis qui sont en détresse, en fait, qui peuvent pas lui répondre. C'est un personnage qui comment dire, il y a toute cette relation avec Xavier qui est assez touchante, mais qui est dur justement parce qu'en fait il est là en train de l'aider à chier parce que le type il est devenu complètement incontinent.
Xavier qui
continue à se foutre de sa gueule et
Xavier dans ses rares moments de lucidité qui lui dit t'es une déception, tu m'as déçu.
Ouais, voilà, donc t'as plein de moments comme ça en fait effectivement où tu te dis le R-rated il est aussi exploité dans la façon de ne pas jouer avec le faux code Hays qu'on pourrait avoir aujourd'hui, qui est un espèce de code moral qui dirait mais attends, si le mec se comporte mal là, est-ce qu'il faut qu'il ait une mini rédemption tout de suite maintenant, parce que sinon on va perdre cette douleur, on va perdre il faut atténuer cette douleur. Donc ça fonctionne très très bien. Julien, tu...
Non, je voulais juste dire qu'il y a un autre truc, c'est que c'est vrai qu'il y a ce R-rated, le côté film plus peut-être pour adultes, enfin en tout cas le truc à contre-courant et tout. Moi, ce qui me plaît en plus de tout ça, et je vais revenir à la source, hein, c'est que ça correspond complètement à Logan. C'est-à-dire que qu'on parle du genre de l'imagerie western, grands espaces, le rapport à la nature, le retour à tout ça, le côté western, mais aussi le côté très violent, très radical, très badass, et justement débarrassé de toute considération morale qui peuvent être sclérosantes en fait dans le cas d'un personnage comme Logan. Ben voilà, ça correspond totalement. C'est pas parce que c'est une autre problématique des films de super-héros aujourd'hui. On n'a pas plaqué sur Superman une vision à la con, de Zack Snyder,
on fait pas un R-rated avec Spider-Man.
Voilà, c'est-à-dire que James Mangold, c'est pas simplement qu'il emmène le genre dans un autre territoire, c'est qu'aussi il le réalise. Moi, je suis heureux d'avoir finalement réussi à avoir un film avec Wolverine comme ça.
Le film est excellent. Tout petit détail qui, à mon avis, peut faire chier les gens, et je pense que les gens qui l'ont vu ont cette problématique, c'est ce rapport au méchant. Donc on se moque un petit peu là, c'est un tout petit détail. C'est cette espèce de... Ah, tu nous mets la petite sirène, la fameuse...
Attention.
Voilà. C'est ce fameux double en fait de Logan qui fait un peu trop
Rappelle un peu trop justement les autres films
de Wolverine
ce genre de conneries, quoi, où tout d'un coup après moi je
thématiquement il fait sens, moi c'est surtout
qu'il fait sens, mais malheureusement
il est mal intégré. Je trouve c'est surtout il est mal exploité. Moi j'ai plus un problème sur le dernier acte qui est un peu redondant, puis je trouve qu'il y a une volonté de surligner certaines choses ça n'avait pas lieu d'être. Ça n'empêche pas que la fin est extrêmement émouvante.
Oui.
Mais je pense que ça aurait été encore plus émouvant si Mangold avait un peu plus misé sur le non-dit. Mmh. Et là, je trouve qu'il y a un effet de surlignage et tout. Après, c'est comme pour le méchant, j'ai du mal à lui en vouloir. Alors, parce que on revient tellement de loin que j'ai l'impression qu'il y a quelque part, il a besoin de ça.
Il y a très probablement que c'est un film qui va grandir.
L'effet de surlignage, je suis désolé, mais je pense que, hélas, il va même pas être vécu comme surligné, quoi. On est arrivé à un niveau de simplisme tel dans les blockbusters que là effectivement la façon avec laquelle ce double joue sur la thématique du film en fait hein, sur la rédemption, ça consiste à faire sortir de toi ce personnage que tu dois tuer quoi. Le double de Wolverine, il est là pour remplir cette fonction là et d'une certaine façon c'est être vrai. Sacrifié à sa place quoi.
Moi, je pense, mais il aurait dû exister en fait et il n'existe jamais vraiment en fait ce personnage là.
Et je pense que aussi le truc, c'est ce que je disais là en fait en intervalle, c'est un film qui va grandir. Je pense que malgré ses défauts éventuels, c'est un film qui va grandir et qui sera amené à être vu.
Voilà. Et c'est un film mis en scène, vraiment, il faut insister là-dessus. Je suis désolé, David, je sais qu'on est un peu long sur cette affaire, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu cet effort de fait sur la façon de cadrer et de photographier les scènes de dialogue. Ça, c'est un des gros points forts de James Mangold. Le positionnement de ces personnages dans les séquences de dialogue veut toujours, toujours dire quelque chose thématiquement, et ça fait tellement de bien d'avoir cette finesse. Encore une fois, on reconnaît l'élève de McKendrick.
Bon, ouais, c'est très encourageant en tout cas, ça donne envie d'aller le voir.
Logan en salle depuis le 1er mars.
Tout à fait. Alors Stéphane, parle-nous de Kong, Skull Island.
Konga en Kull Island.
Kull Island.
Je croyais que t'étais en train de me faire.
Skull Island. Ah là là, Kong. Donc encore un nouveau King Kong, quoi.
Encore un nouveau King Kong, ce qui était à la base, t'as l'impression que c'était pas, ils voulaient pas forcément le vendre sur cette logique-là, et puis ils ont fini parce que ça s'appelait Skull Island, donc c'était l'île. Et puis ils ont fini par ajouter quand même le terme Kong avant pour bien te faire comprendre que c'est le personnage principal, on va dire, du film. Par où commencer?
Vous l'avez vu?
Oui. Alors, oui, bien sûr. Sinon on n'en parlera pas.
Mais ça vous est déjà arrivé de parler des films que vous aviez pas forcément vus, mais vous aviez des choses à dire dessus.
Ouais, non.
Moi j'ai pas vu Kong Skull Island.
Mais alors va-t'en.
Et c'est de la merde.
Écoute, bah c'est pas bien. Ouais, le problème.
Alors ça se voit dans la bande annonce.
Alors bah écoute, ça se voit dans la bande-annonce. Le problème, si tu veux, c'est que la bande-annonce peut faire, je pense, illusion, parce qu'il y a pas mal de money shot dans le film, et le film est extrêmement shooté en money shot. Enfin, c'est vraiment du money shot. Voilà. Julien sera peut-être pas d'accord avec moi, mais je compare ça à du Zack Snyder, ce qui... Là, je crois que les auditeurs ont absolument tout compris, quand apparemment, vu le nombre de fois où on nous reproche en fait, de taper sur Zack Snyder. Mais vraiment, ça me fait penser à ça, c'est-à-dire que cette espèce de façon d'aborder en fait chaque élément du film sous le prisme de la référence mal digérée, mal voilà, ça se passe dans les... À la base, le concept est intéressant, on revient sur Skull Island.
C'est mieux ou c'est moins bien que King Kong 2?
C'est très différent.
King Kong 2,
ouais,
de Guillermin.
Oui.
J'ai cru que t'allais me parler de Peter Jackson là.
King Kong 2. Celui où il a fait un cœur.
C'est pas son titre, c'est Il revient et il n'est pas content.
C'est un chef-d'œuvre.
King Kong 2, c'est drôle.
Ah, moi j'adore.
Parce que l'Island, c'est pas très drôle.
D'accord, c'est le problème.
Voilà. Et le truc,
parce qu'en fait, excuse-moi, juste pour introduire, il y a eu quatre versions de King Kong, on va dire. Il y a eu celui d'origine de 1933. Il y en a un de 77 avec le beau Jeff Bridges et la belle Jessica Lange. Et il y a eu donc King Kong 2, mais ça on va peut-être pas en parler. Et puis il y a eu le Peter Jackson qui n'est pas si vieux que ça.
Il y a King Kong.
Sauf que là, il se réfère à un autre. C'est le King Kong japonais en fait.
D'accord.
Voilà. Ah ouais, en fait, c'est le. Enfin, vas-y.
Non, vas-y.
Non, en fait, le remplaçons le truc. En fait, c'est que
c'est intéressant.
Cette obsession, ce film est né de cette obsession et de cette grande maladie qui frappe actuellement Hollywood d'essayer de créer des univers étendus. Je sais pas trop comment on peut appeler ça autrement, des méga franchises, des je ne sais pas quoi, où en fait, on essaye de rassembler le plus de gros titres et de franchises possibles, imaginables, pour en offrir plus aux spectateurs. C'est-à-dire que c'est un peu ces menus de ces fast-food, là on te rajoute un truc en plus et en plus et en plus pour te donner les machins. Et c'est dramatique parce que les films sont plus conçus en eux-mêmes, en fait, et puis aussi parce que de toute façon... moi je sais pas ce qu'il vaudra ce réalisateur, je sais pas ce qu'il fera ensuite.
Oui, parce qu'il a pas fait grand chose, Jordan.
J'ai pas vu son précédent film, mais les gars se retrouvent à devoir résoudre des équations qui sont quasiment insolubles en fait. Et Et là, en l'occurrence, il s'agit, c'est donc un film Legendary, produit non plus chez Universal, parce que Legendary bosse beaucoup avec Universal actuellement, mais chez Warner. Et le but à long terme, c'est de faire un King Kong contre Godzilla. Donc et je crois qu'ils ont appelé ça le Monsterverse.
Mais ça, c'est pas dans le film.
Et alors, justement, c'est dans le film, c'est-à-dire qu'il y a une séquence post-générique à la Marvel où en gros on t'annonce l'affrontement entre King Kong, Godzilla, mais aussi Mothra, King Ghidorah et Rodan.
C'est l'approche japonaise du personnage.
C'est ça le truc, c'est que. Que tu fasses un King Kong contre Godzilla qui était pas de loin de là le meilleur Kaiju Ega de cette période-là qui a été fait. C'était fait dans une période très spécifique en fait du cinéma. Le spectateur, c'est pas qu'il était moins sophistiqué, etc. Mais je pense que ils allaient voir autre chose en fait qu'aujourd'hui. En fait, les gens, ils avaient pas le même rapport au cinéma, quoi, tout simplement. Surtout au Japon, surtout à cette période-là, et surtout avec quand t'allais voir déjà un personnage comme Godzilla au cinéma. Aujourd'hui, que le mec qui te fasse un King Kong contre Godzilla, c'est très compliqué. Là, c'est pas King Kong contre Godzilla, et Godzilla n'apparaît pas dans le film vraiment, quoi. En fait, c'est juste
parce que c'est ça le truc, c'est qu'il faut parler du film tel qu'il est aussi, quoi.
Mais oui, voilà, mais j'y viens en fait.
Mais tu replaces dans le contexte.
Voilà, et donc le truc, c'est que de toute façon, et c'est un peu la même chose d'ailleurs avec Godzilla de Gareth Edwards, c'est que comment tu fais pour retranscrire un film comme ça, une grosse franchise comme ça aujourd'hui dans le cinéma américain contemporain. Alors t'as deux voix, t'as celle de Gareth Edwards qui est dans la rétention anale totale ou quasi, où le mec il va essayer de tout restructurer et tout pour tac te lâcher quelques petites bribes de Godzilla de temps en temps. Moi je préfère cette version là parce que même s'il y a d'énormes problèmes dans le film de Gareth Edwards, je trouve que quand Godzilla est là, il est bien là. Puis il y a cette version là où moi j'ai l'impression que le mec se dit bon ben rien à foutre et on y va et on fait absolument n'importe quoi. Ce qui est assez marrant dans le, enfin c'est pas marrant, mais ce qui est assez parlant en fait dans le film, c'est que il y a une mise en place qui pour moi fonctionne à peu près, et puis à un moment clé où on va t'indiquer très clairement ce que sera le film. C'est une séquence qu'on voit beaucoup dans la bande-annonce où les hélicos arrivent de l'armée de tous les autres gars qui vont sur Skull Island, arrivent sur Skull Island, lâchent des bombes. Une vague explication scénaristique à ça. Et puis il y a King Kong qui apparaît, mais qui ne sera pas caché. On te le balance tout de suite et qui se met à désinguer tous les hélicos d'un seul coup dans un feu d'artifice pyrotechnique.
Est-ce qu'il fait un bras d'honneur et avec son
bras. Non.
Parce que chez les Japonais, quand ils niquaient un hélico, ils le faisaient.
Oui, ah bon.
Mais oui, mais
peut-être
tu sais,
pas chez Honda. Mais enfin bref, donc les personnages se retrouvent éparpillés et le film ressemble un peu à ça, c'est-à-dire que c'est une. T'as l'impression que le gars est juste là pour. Alors je sais pas, pour se faire plaisir, ouais, je pense quand même un peu. Et pour essayer de satisfaire en fait son public, mais le problème c'est que du coup il y a plus de scénario. Il y a plus de personnages. Il y a pas vraiment de mise en scène non plus. C'est-à-dire que moi, il y a un personnage, notamment, je pense au personnage de John Goodman. Je sais pas si t'as fait ça, Steph. À un moment, je me suis dit, ah merde, mais il est mort quand? Et puis après, je me suis dit, ah mais non, mais il est pas mort, il est là. Et après, je me dis, ah oui, ça y est, il est mort. Mais, désolé, j'ai spoilé. Pour vous dire le degré un peu de truc, quoi. Oui, bon,
c'est trop tard, c'est fini.
Non, mais c'est pas grave, en fait.
J'ai pas le bouton assez rapide.
Écoute, j'en fiche mon billet. Je pense qu'il y a aucun auditeur qui m'en voudra d'avoir spoilé le film. En fait, il y a pas grand chose à spoiler.
Non, en plus, quand tu parles de construction de personnages, il y en a un qui a un arc. Vraiment. C'est celui de John C. Reilly. C'est-à-dire, il arrive au début. Et il y a un truc à la fin. Et le truc, si tu veux, c'est que tu te dis, ok, donc ce perso, il a évolué du moment où il arrive dans le film jusqu'au moment où on le voit à la fin. Le perso est plutôt sympathique en soi. C'est le seul, en tout cas, pour lequel t'as un peu d'affection, on va dire. Ça aide que ce soit John C. Reilly, qui est quand même un très bon acteur. Voilà. Mais tous les autres persos, que ce soit Samuel Jackson, qui est un colonel réchappé du Vietnam, qui arrive triomphant sur cette île,
Ça va à peu près encore.
Alors qu'ils sont censés quand même, vivre la défaite du Vietnam, et le mec, il comprend pas pourquoi tous ces hélicos se font niquer. Mais c'est ça tout le problème, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est dans l'approche du film, je sais pas si vous avez vu cette affiche sur internet, qui est une des affiches, je crois, parallèles du truc, qui moi je trouve mais au niveau du ridicule du film, c'est cette affiche qui cite Apocalypse Now en mettant Kong à la place de, ouais. de
Marlon Brando.
De Marlon Brando, ce qui est hilarant parce que tu te dis Apocalypse Now est clairement cité dans le film. Mais en fait, il est cité pour dire « Ah, le Vietnam, c'est Apocalypse Now. » T'as pas un seul moment donné où les mecs se sont dit, parce que ça se passe dans les 70, donc, après le Vietnam, et t'as pas un seul moment où les mecs se disent « Le Vietnam, c'est le Vietnam, en fait. » Ils se disent juste « Le Vietnam, c'est Apocalypse Now, donc je refais des plans d'Apocalypse Now en pourri. » C'est limite.
Raconté comme ça, ça fait très Zack Snyder. Moi.
Mais c'est, voilà, c'est ce que je disais, c'est du Zack Snyder. Ouais. C'est voilà. Alors... Et c'est le même chef-op que j'ai appris ça après avoir vu le film, le même chef-op que Batman v Superman. Mais
le truc, c'est le même chef-op, Larry Funk, c'est le chef-op de Zack Snyder.
Ah voilà, bon, bah, ouais, mais je ne suis pas la carrière forcément.
Donc en fait, on a, c'est des gens qui savent pas que le Vietnam, c'est vraiment produit, quoi. Ils connaissent
voilà,
les films.
Voilà, c'est ça, ils connaissent les films. Et t'as ça un peu sur le truc, c'est que King Kong, à la fin, enfin, t'as quand même des moments. Où, parce qu'il y a une nouvelle espèce en fait contre laquelle il se bat là, et ça c'est complètement aberrant parce que à un moment donné il la nomme et en fait les mecs disent ah, c'est une idée à la con donc on oublie et du mais coup je marrant, pourrais même pas te dire comment elle s'appelle cette espèce du coup puisqu'elle
c'est
est pas
crawler je crois un truc ouais, comme ça
puisqu'elle mais... est plus nommée et le truc c'est que tu te retrouves pour dire moi jusqu'à quel point on arrive dans la ridiculerie du film j'invente des mots c'est ce moment où Kong en fait arrache un moteur de bateau pour faire carrément le et c'est là où on dit qu'on rentre dans le n'importe quoi pour faire carrément la flying guillotine en envoyant ça dans la gueule du mec pour le défoncer.
Oui, mais alors vous, chez Capture Mag vous avez un peu vos chouchous parce que quand c'est Guillermo del Toro là, qui fait ça dans Pacific Rim avec un paquebot, c'est tout de suite ses chefs-d'œuvre. Mais alors là, parce que c'est le frère de Zack Snyder, ça vous plaît pas.
Voilà. Et non, mais l'autre truc, le truc, c'est surtout que quand tu regardes ça, tu te dis c'est des plans à la Peter Jackson, si tu veux, voilà. Mais parce qu'en fait, il y a plein de motion tracking sur le personnage et tout quand il se déplace et tout ça. Mais voilà, enfin c'est je sais pas, c'est
un moment donné. Je déteste pas hein, la version de Peter Jackson.
Ah mais elle est magnifique la version de Peter Jackson.
Non, excusez-moi. Je la trouve un peu longuette personnellement, mais sinon,
non mais là, mais ça dure 2h15. Je peux te dire que tu sens que c'est beaucoup plus long et t'aurais bien aimé qu'ils aient 3/4 d'heure pour développer les persos supplémentaires parce que franchement. L'histoire d'amour, c'est pareil, les mecs ils traitent ça en 3 plans, 3 putains de plans. T'as l'histoire avec la blonde et c'est King Kong qui la regarde, il fait et puis il la repose. Voilà, c'est tout. Donc le truc, c'est qu'à un moment donné, à ce point de pas traiter les choses, si tu veux, qui font partie de la mythologie quand même du personnage. Et moi j'avais pas, parce que pour te dire que j'avais pas suivi le truc, j'ai pas vu la séquence post-générique, j'avais pas suivi que c'était censé être dans un Monsterverse, tu vois. Tout le film est comme ça. Donc à un moment donné, tu te dis, ah, mais comment, enfin, en gros, il y a rien qui est créé, tu vois. Et bref, si t'es un peu déviant, tu peux prendre du plaisir à avoir des money shots, on va dire, mais bon.
C'est ça, c'est-à-dire que moi, pas tant Zack Snyder, parce que le film a au moins ce mérite-là. C'est-à-dire que moi, ça m'a fait surtout penser en fait à Jurassic World, ce qui est un gros défaut dans ma bouche.
Ah bon ?
Mais il y a quand même deux différences. C'est que déjà, parce que ça s'appelle Kong, mais moi, Dieu sait que j'ai un attachement au personnage et tout, ça pourrait s'appeler
Fong,
Jean-Jacques, ce serait
Jean-Jacques,
la même chose.
Jean-Michel.
Non, mais c'est plus King Kong, c'est autre chose. Et au moins, t'as pas ce commentaire je trouve d'une hypocrisie achevée dans Jurassic World, où on te dit non, mais on critique, mais on en profite. Mais on critique, mais on en profite. C'est voilà, et au moins t'as pas ça, et je trouve que au moins et c'est pareil, c'est par exemple moi je trouve que t'as même pas ça dans Batman contre Superman, t'as au moins plein de monstres. Et basiquement le film il arrête pas quoi. Alors c'est vrai que c'est pas super trépidant parce que tu t'accroches à rien, tu peux pas t'accrocher aux choses.
Tu t'en bats les couilles de ce qui se passe.
Mais je sais pas, il doit y avoir une dizaine de monstres. En plus
ça a coûté pas loin de 200 millions de dollars.
C'est Carlos Fuentes et Simon Lee qui ont designé les monstres et c'est plus intéressant que les mecs que va chercher le réalisateur que j'ai déjà oublié de Jurassic World. Colin Trevorrow, c'est quand même des mecs plus intéressant, Simon Lee et Carlos Fuentes, si vous aimez les monstres et si vous intéressez un peu aux designers, je pense que vous connaissez leur nom. En tout cas, allez faire un tour sur Google Images et sur IMDb, vous verrez qui c'est.
C'est dommage, c'est pas Tatopoulos.
Non, mais justement, voilà, c'est mec beaucoup plus intéressant et tout. Au moins, t'as ça et de temps en temps, t'as 2-3 trucs qui arrivent là. Après, le problème, c'est que est-ce que c'est un film ?
Voilà.
Et c'est ça en fait, on en vient là maintenant.
Mais même en termes de mise en scène.
Et je pense que c'en est pas un en fait.
Mais même en termes de mise en scène, par exemple, toute la structure.
C'est dingue, c'est plus. Il y a un côté encore plus décadent que sur certains Transformers de Michael Bay, en fait.
Mais ça, c'est parce que tu t'accroches au. Comment dire.
Michael Bay, moi, je.
Tu t'accroches au classicisme qui est lié à Kong, en fait, à la base. Mais le truc, c'est que, honnêtement.
Bah, il a pas tort.
Il y a pas de. Oui, mais il y a pas. Le problème, c'est qu'il y a pas de mise en scène. C'est-à-dire, il y a pas de mise en. Voilà. Par exemple, la première scène. Qui est sympa dans l'absolu, c'est en gros un Américain et un Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale en fait qui chutent de leurs avions en fait, qui atterrissent sur l'île, qui continuent à se faire la guerre, ok. Ils sont que deux, c'est une espèce de réminiscence de duel dans le Pacifique pendant une seconde quoi, et en fait ils sont arrêtés par l'arrivée inopinée de Kong. Et en gros,
qu'est-ce qui vient foutre là, ce
mais non, mais l'arrivée inopinée de Kong, en fait, c'est carrément une note d'intention pour le reste du film, c'est que ils l'entendent pas arriver. C'est-à-dire, que t'as quand même un putain de singe qui fait 300 mètres de haut, ok, et les mecs sont en train de se battre dessus, et en fait, le mec arrive, il a pas fait de bruit, c'est un putain de ninja Kong dans ce film,
bah oui.
Et il apparaît, et c'est toutes les apparitions comme ça. Il y a pas un moment, tu vois, si tu veux, où t'entends le bruit, t'entends le machin. Je veux dire, comme dans un Jurassic Park, comme dans un truc, comme dans un Kong, tu vois. Enfin, je veux dire tout simplement la sensation que la bête existe dans cet environnement. N'est jamais là, donc il y a pas de mise en scène. Tu vois,
ce que je voulais juste dire, et on va conclure parce que c'est pas.
Oui, oui.
Ce que je voulais juste dire, c'est que je pense que si t'es dans les bonnes dispositions, que tu vois le truc dans le bon contexte et tout, ça peut être un plaisir déviant en fait, coupable. Ce Kong Skull Island, c'est vrai que sauf que moi je m'attendais pas en fait à voir ça. J'attendais pas spécialement le film.
Est-ce que ceux qui ont aimé Jurassic World aimeront Kong?
Tu sais, Jurassic World, c'était du dino porn, donc là tu peux dire que c'est du
c'est
monster porn.
C'est du monster porn.
C'est du monster porn.
C'est vrai, hein, clairement.
Mais quand je dis c'est du Zack Snyder, mais c'est que
moi je trouve ça quand même plus sympa que Jurassic World.
T'as cet aspect comme ça, hyper vénère, dégénérescent, tu vois, comme chez Zack Snyder, tu vois. Et il se trouve que c'est.
Avec le côté sérieux et machin au moins, quand même.
Ouais, enfin, le côté je me la pète à ne pas savoir utiliser mes thématiques, mais bon, enfin là, en l'occurrence, Kong, t'as une thématique sur la bestialité, sur des trucs comme ça qui n'existent absolument pas là-dedans.
Le mec, il assume d'avoir fait quand même un truc un peu gonzo, hein, apparemment. Il se prend pas comme Zack Snyder pour une espèce de grand auteur, et puis là, il va pas adapter Watchmen.
Quand tu cites Apocalypse Now, je sais pas si tu veux faire du gonzo à la base. Hein.
Mec, en fait, il cite pas Apocalypse Now. Lui, son poster préféré, c'est le japonais. Quand tu as vu le poster japonais de Kong Skull Island, je pense que tu as. Voilà. Ça, si vous voulez voir une affiche qui ne ment pas sur Kong Skull Island, regardez le poster japonais.
Okay. Enfin, voilà. Donc, c'est. Ça sort par contre. Ça sort le 8 mars, donc
ça
la semaine prochaine.
La semaine prochaine.
Voilà.
Alors donc, vous ne recommandez pas spécialement, sauf.
Ouais, Julien, il recommande, mais parce qu'en fait, il
recommande avec des copains,
c'est
des copines et beaucoup d'alcool.
Parce que c'est une pute à monstre,
c'est
tout.
Ça. C'est une
pute
à monstre.
Oui, mais ça fait.
On va conclure.
C'est quand même agréable.
C'est une pute à monstre. Tiens, bah, ma petite pute à monstre, continue.
Oh, voilà.
Prends la parole et parle-nous de Don Verdine.
Nouveau film, enfin pas nouveau film, c'est l'avant-dernier film de Jared S.
Que j'avais beaucoup aimé Napoléon Dynamite.
Voilà, et son dernier film en date,
Les Cerveaux,
est sorti en catimini en France en salle en fin septembre de l'année dernière ou début octobre, je sais plus.
Enfin,
c'était
même,
ah ouais,
non,
bon d'accord, même, ouais. Si tard que ça. Don Verdine là n'aura pas les honneurs d'une sortie en salle, il sort directement en DVD.
Il est sorti en DVD depuis le 1er février.
Ouais, il est déjà sorti, j'ai l'impression que personne n'en a parlé. Enfin, moi, j'en ai parlé dans mon émission, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas beaucoup à en avoir parlé.
On n'est pas beaucoup à parler.
C'est bien, tu en parles.
Même, je sais pas si aux États-Unis, on en parle beaucoup plus.
Bah, Napoléon Dynamite, à l'époque, ça a été un carton inattendu. Enfin, inattendu, un peu hypé par Fox à l'époque.
Totalement inattendu.
Nacho
Libre.
C'est un truc qui a bien cartonné à Sundance. Et en fait, ils en ont profité. Ils ont même re-shooté des scènes. Hein, donc, c'est quand même un peu prévu. C'était un peu prévu, mais ils ont vachement montré le film dans les campus américains quand c'est sorti en 2004, tout ça. Donc ça a été un gros succès pour un film indépendant. Il a fait par la suite, il a fait Nacho Libre qui est sorti en France sous le titre de Super Nacho qui s'est complètement comment dire pas aux États-Unis. Aux États-Unis ça a marché, ça a fait 85, bah c'est sorti dans trois salles en fait, ça a été vraiment bazardé parce que le catch, parce que Jack Black, parce que voilà.
Ouais, j'ai pas non plus super, enfin pour le coup j'ai moins accroché.
Moi j'adore Nacho Libre, c'est mon préféré de
parce
de
que tout parce que film, comédie donc. US hein, en France.
Oui voilà. Et depuis il a fait un autre film qui s'appelait Gentleman Broncos qui est
qui
était plutôt sympa sur un jeune écrivain j'ai de SF adoré. Qui s'est fait piquer son
idée.
Mais
moi j'adore la SF, le monde de la science-fiction.
Ah oui, c'est ton truc.
Et Gentleman Ranko, j'ai adoré ce film.
Et il a arrêté de faire des films pendant 4-5 ans. Alors il y a peut-être une précision à apporter, c'est qu'il écrit avec sa femme et les deux sont mormons.
Ah ouais.
Ouais. Et voilà. Et c'est intéressant c'est intéressant à préciser parce que t'as tout souvent des comment dire des chansons religieuses un peu désuètes dans leurs films. Dans Don Verdine, ça ne déroge pas à la règle. Mmh. Assez marrante, enfin des chansons de hippie croyant quoi. Mmh. Et c'est le sujet de Don Verdine en fait.
Bah oui, c'est ça. Voilà. C'est l'histoire du personnage et je pense qu'il faut vraiment pitcher Don Verdine pour.
Bah vas-y, pitch.
C'est l'histoire du personnage éponyme qui est joué par Sam Rockwell, formidable acteur, mais on y reviendra, je pense. Ouais. Qui est une espèce de faux Indiana Jones. Qui vivote faisant croire qu'il parvient à dénicher d'anciens artefacts issus des récits bibliques. Sauf que
comme un bout de l'arche de Noé, ce genre de truc.
Voilà, c'est ça. Il se retrouve à devoir répondre à une commande spécifique et en gros, il va s'emmêler les pinceaux dans son propre mensonge et il va devoir gérer sa propre crotte, quoi.
C'est excellent.
Alors, le truc, je pense que ce qu'il faut peut-être dire tout de suite, c'est que le film est pas hilarant. C'est pas frangin malgré eux. Ça fait rire de temps en temps. C'est assez sympa. C'est surtout le personnage de Jemaine Clements qui m'a fait mourir de rire, qui est un acteur que j'adore. Qui malheureusement est.
Fight of the Concorde,
et surtout dans.
Méchant dans Men in Black 3.
Voilà, il est surtout connu pour ça. Mais il était maquillé par Rick Baker. Et qui était.
Donc ça va.
Non, c'est pas ça, c'est qu'on ne le voyait pas trop, il a un jeu au niveau de sa gueule et de son regard.
Oui, qu'on
incroyable.
Voit pas du tout dans Men in Black 3.
On le voit pas, et c'est vachement dommage, quoi.
Il était dans John Gentleman Broncos, c'était celui qui volait le livre, c'était l'écrivain.
Ah ouais, il est excellent.
Et moi, je l'adore surtout dans What We Do in the Shadows.
C'est lui qui donne les cours dans Gentleman Bronco, là.
Les cours avec les noms, là. C'est l'écrivain, il me semble.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et là, moi, je trouve qu'il est.
Il est très drôle.
Il est absolument hilarant dans le film. Il a 3-4 scènes, notamment une scène de séduction qui est à mourir de rire. Il a un langage corporel qui est super drôle.
Ce qu'il faut peut-être dire sur le cinéma de Jared Hess, c'est que c'est de l'humour très. Comment dire.
Cérébral, quand même.
Voilà, c'est. Tu pourrais même presque dire qu'il y a, mais ça serait méchant, un peu de hipsterisation derrière le fonctionnement du bonhomme, en fait, dans sa façon de présenter certaines choses, quoi. Si ce n'est que, en fait, ça, c'est généralement assez bien vu. Moi, j'ai moins aimé que toi, quand même, Don Verdine, parce que j'avais beaucoup aimé les trois premiers. Enfin, mais bon, surtout Nacho Libre, mais Gentleman Broncos est plutôt cool, et Napoléon Dynamite, c'est aussi, quoi.
Mais ce qui est marrant, c'est que ce mec-là a des thématiques très variées. Mais très forte à chaque fois, et je pense que selon ta fibre, selon ton goût, ça touche vraiment quelque chose, et ça va assez loin dans le détail, hein. En tout cas, pour moi, Gentleman Broncos attaquait vachement de détails sur l'écriture, l'implication de l'écrivain, enfin, il y avait vraiment des trucs très bien vus dans ce film-là.
En fait, je pense que moi, enfin, ce qui me concerne, il remporte, mais attends, Steph, tu voulais peut-être finir ton idée? Non, mais je trouve qu'il emporte le morceau dans un film comme Don Verdine. Pour une raison toute bête, ce sont les persos et surtout la construction qu'il y a autour de ces persos-là. Et le personnage de Don Verdine en lui-même, un personnage extrêmement riche en fait. C'est un film sur la foi, c'est un film sur le mensonge aussi. Et c'est un personnage qui est super intéressant parce qu'on ne sait jamais trop ce qu'il est. C'est assez rare finalement dans la comédie. En général, dans la comédie, c'est des personnages relativement transparents. C'est ça qui te fait rire en règle générale. Là, c'est un personnage, tu as du mal à comprendre en fait pendant tout le film. Tu cherches à comprendre, tu cherches à savoir si le mec est dupe de ses mensonges, jusqu'à quel point il souffre de devoir mentir et d'avoir bâti toute son existence sur ce côté usurpation. et tout ça aboutit à la fois une histoire d'amour et aussi un payoff final que je ne vais évidemment pas révéler, mais qui rend le personnage extrêmement touchant et extrêmement émouvant, alors que il lui tape quand même bien dessus en fait pendant tout le
oui, et puis ça, c'est quand même un truc qui tape sur le comment dire,
ça aussi c'est
la
sympa
façon de retourner la foi si tu veux, et de l'instrumentaliser pour les gens quoi. Le après moi je trouve que le problème c'est que t'as des persos, par exemple t'as le personnage de comment il s'appelle cet acteur merde, qui jouait MacGruber.
Danny McBride ?
Non, pas Danny
McBride. Will Forte ?
Will Forte, exactement, où ça, je trouve que c'est un peu exploité comme un cheveu sur la soupe. Il revient juste à la fin. Il en a besoin pour un truc de récit. Mm. Alors que, comme tu dis, c'est les personnages qui emportent un peu l'adhésion. Donc, c'est vraiment, il est utilisé pour, à des moments clés et il disparaît quand il n'en a plus besoin. Ouais. T'as des trucs un peu comme
il
ça.
Il est rigolo. Où, voilà.
Mais t'as des trucs un peu comme ça. Bah, il est rigolo parce que c'est Will Forte qui est plutôt sympathique, quoi. Mm. Mais qui a l'habitude de jouer des gros connards, quoi. Mm. Mais voilà, moi, je trouve que c'est moins. C'est vrai tout ce que tu dis. Dans le fonctionnement généralement de Jared S. En général, c'est ce que je disais, c'est pas quelqu'un qui met en scène en fait les gags ou l'humour ou vraiment c'est pas, il fonctionne pas comme ça, il est assez plan-plan dans son fonctionnement. En général, le cadre ne bouge jamais vraiment, il a très peu de valeurs de plans différentes et tout, ce qui est quand même dans la comédie physique en fait, parce qu'il y a quand même de la comédie physique dans ces films, et surtout par exemple dans Nacho Libre, ça peut être un défaut, mais en fait ça se retourne assez bien, il le retourne assez bien, et voilà, donc je pense que l'idée tout simplement de parler de ce film là c'était aussi un peu de revenir sur la carrière du bonhomme, qui est vraiment
de parler un peu d'un film dont personne ne parle,
voilà, et qui est un peu méconnu
puis si vous aimez Sam Rockwell aussi, une des meilleures compositions je trouve de sa carrière, apparemment il a fait ça à la méthode à fond, en se mettant à fond dedans, et il est vraiment excellent quoi. Voilà.
Bon, bah écoutez, c'est disponible chez nos amis d'Amazon pour 9,90€ DVD uniquement.
Et ouais, c'est si pas sorti en Blu-ray. Ouais.
Alors c'est en Blu-ray, mais je vous recommande le Blu-ray allemand qui est aussi sur Amazon à peu près 17€. Plus du frais de port et sur le Blu-ray allemand vous aurez non seulement la version toton, mais vous aurez droit à de l'anglais, donc de l'espagnol, du français, de l'italien et de l'islandais, et c'est pour les sous-titres, et donc pour l'audio il y a aussi de l'anglais et du français, donc voilà, si vous voulez le Blu-ray, je recommande le Blu-ray allemand, aussi disponible chez nos amis d'Amazon. Voilà, donc Don Verdine, on recommande, Julien, alors
bah
très
oui.
fortement.
Un peu moins, moi, mais bon.
Très fortement.
Je vous commence éventuellement de commencer par Napoléon Dynamite et Nacho Libre et Gentleman Brocos, et puis bon.
Ça vous
plaît,
ça vaut le coup.
Vous serez prêt pour Don Verdine.
C'est ça, ça vaut le coup de voir les films de ce gars-là. Mmh, très bien. Bon, et donc, on va terminer là-dessus. Hein. Ça va, Rafik, tu digères?
Oui.
Tu nous as un peu lâché, là, sur Don Verdine.
Et il l'a pas vu, je pense.
Non, je l'ai pas vu du tout.
Non, mais c'est pas. Tu avais vu d'autres films de ce réalisateur?
J'étais occupé à découvrir des photos d'un compte qui me fait marrer, là, d'un gars qui prend des photos d'un film et qui les attribue à un autre.
C'est sur Instagram ?
Ouais, c'est sur Twitter.
C'est sur Twitter.
Kaloum Marsh, il s'appelle, c'est une photo de La La Land, j'imagine, que je n'ai toujours pas vu. Il y a des gens dans les embouteillages en train de sauter en l'air. Et donc le film, enfin, il met le titre au-dessus, The Happening. Directeur M. Night Shyamalan en 2008, et du coup c'est rigolo,
ça te fait rire.
Ça me fait marrer parce que c'est un peu
ça fait écho au podcast que nous avons enregistré la semaine dernière.
Oui, très bon podcast, qui enfin je dirais à 90%.
T'étais là,
les dernières minutes étaient un peu pénibles, mais...
Bon les amis, on vous laisse, on se retrouve la semaine prochaine pour un Capture Mag Hebdo, hein, un autre. Et puis, en attendant, n'hésitez pas, des étoiles sur iTunes, des commentaires sur iTunes. Visitez capturemac.net pour voir les articles que vous publiez de manière totalement régulière. Oh. et puis évidemment, capture le mag sur Twitter, Jules Dube sur Twitter, Esmoïsaki sur Twitter, ou Rafik Djoumi sur Twitter, et moi-même sur Twitter.
Air Djoumi.
Et moi, c'est David Brage sur Twitter. Voilà, venez nous voir, on vous
parle. Ah ouais,
parlera.
Mais j'avais dit David Beerage.
Non, Brage. Comme le début de Brajlon.
Ah!
Et voilà!
Moi je croyais que t'étais en colère et tout.
Mais même pas. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.
Salut David.
Salut.